chez le roi. Marie-France Guimaroche est très heureuse de vous présenter son émission consacrée à Versailles. Retrouvons Carlo Goldoni, le beau Vénitien à Versailles, grâce à Soline Antor de l'Université de Provence. Et c'est bien sûr Antonio Vivaldi qui nous accompagne. Vivace! Denis est de nouveau convié à la cour. Mes dames eurent la bonté de me faire appeler. Je reçus un présent de 100 louis dans une boîte d'or ciselée et il fut question de m'assurer un état. Il recommence également à dispenser ses leçons, comme il en témoigne dans une lettre du 26 mai 1766. J'ai repris avec madame mon exercice ordinaire. Il y a 8 jours que mon auguste élève m'a à nouveau assuré qu'on va rapidement décider de ma situation à la cour, et elle a accompagné ses paroles par un présent consistant en une tabatière en or d'une valeur de 60 louis et de 100 louis en espèces, en disant que ce cadeau n'entre pas dans mes appointements qui seront pris en compte le jour où je suis entrée à son service. En fait, mesdames demandent pour Goldoni le titre et les émoluments d'instituteur italien des enfants de France, mais le ministre ne souhaite pas créer de nouvel emploi à la cour. Je continue à servir, à attendre et à espérer. Ce fut au bout de 3 ans que mes augustes protectrices me procurèrent un traitement annuel. Elles demandèrent pour moi 6 000 livres par an. Le ministre trouva que c'était trop. « Je crois, dit-il, que M. Goldoni sera content de 4 000 francs d'appointement. » Les mémoires secrets de Bachaumont indiquent le 12 janvier 1769 que le roi vient de donner 4 000 livres au sieur Goldoni, appelé en France depuis plusieurs années par les comédiens italiens, pour soutenir leur théâtre. Et depuis nommé pour apprendre à mesdames la langue dans laquelle il a donné des drames si intéressants qu'ils l'ont fait surnommer le Molière d'Italie. Goldoni sait bien que ce traitement n'est pas bien considérable, mais il écrit devoir s'estimer content. De plus, mesdames avaient dit « Vous aurez pour écolier nos neveux ». Toutefois, aussitôt que mon traitement fut réglé, mesdames cessèrent de s'occuper de la langue italienne. J'avais envie d'aller rétablir mon séjour à Paris, mais je m'amusais assez bien à Versailles et j'y restais encore quelque temps. Au début de l'année 1770, Goldoni rentre à Paris, mais cela ne l'empêche pas de continuer à fréquenter la cour. Ainsi, le 16 mai, il se rend à Versailles pour assister à la fête des noces du dauphin et de Marie-Antoinette. J'ai vu le temple richement décoré, le coup d'œil imposant du banquet royal, le bal dans la galerie, les parties de jeu dans les appartements, des illuminations partout, un feu d'artifice de la plus grande beauté. Torre, artificier italien, porta à cette occasion l'art pyrotechnique au dernier degré de sa perfection. L'on fit en même temps l'ouverture du nouveau théâtre de la cour. C'est un riche monument dont l'architecture offre plus de majesté que de commodité pour les spectateurs. Il faut le voir lorsqu'on y donne des bals parés ou des bals masqués. Un an après le mariage de Louis XVI et de Marie-Antoinette, Carlo Goldoni se rend à nouveau à Versailles, car dans le mois de mai de l'année 1771, on célébra à Versailles le mariage du comte de Provence, petit-fils de Louis XV et frère du dauphin, avec Marie-Louise de Savoie, fille aînée du roi de Sardaigne. Les réjouissances à l'occasion de ce mariage furent de la même magnificence que celles de l'année précédente. « J'avais passé mon temps, dit-il, dans les appartements aux noces du dauphin. Je jouis des jardins à celle-ci. » Pour la première fois, Goldoni s'attarde à décrire le parc de Versailles. En novembre 1771, une de ses pièces est présentée à la Comédie-Française, « Le bourru bienfaisant » qu'il dédie à Madame Adélaïde. « C'est à madame que je dois d'habiter encore le séjour des muses et des grâces. Son goût pour la langue italienne m'y a arrêté. Ses bontés m'y ont fixé. Et c'est pour me mettre en état de l'aider à expliquer les auteurs italiens que j'ai tâché de savoir un peu mieux le français. » Les années passent. On célébra à Versailles, dans le mois de novembre de l'année 1773, le mariage de Monsieur le comte d'Artois, frère de Louis XVI, avec Marie-Thérèse de Savoie, fille du roi de Sardaigne et sœur de Madame. Les fêtes, à cette occasion, furent ordonnées et exécutées avec la pompe et la magnificence ordinaires. Autant la saison était contraire au spectacle champêtre du parc, autant les appartements étaient brillants par les salles de bal et de jeux multipliés, et par la quantité d'étrangers qui venaient de toutes parts pour assister à ces noces et passer l'hiver à Paris. Pour Goldoni, le parc de Versailles est délicieux par lui-même. Son étendue est immense, dit-il, ses compartiments variés. On y voit de tous côtés une profusion de marbres précieux, des statues originales, des célèbres artistes modernes et des copies très exactes, d'après les antiques, les plus estimées. On y rencontre partout des allées peignées et décorées, qui cachent des recoins rustiques et ombragés. On y voit des bassins richement ornés, des parterres agréablement dessinés, des fontaines superbes et des jets d'eau d'une élévation surprenante. Il admire également l'orangerie, un chef-d'œuvre de l'art, où la quantité et la grosseur de ces arbres est merveilleuse. Mais selon Goldoni, ce qui fait la beauté et la richesse principale de ces jardins enchanteurs, ce sont les bosquets. En réalité, parler de ces bosquets permet surtout à Goldoni d'évoquer un des privilèges dont il jouit. Ces espèces de salles ou de cabinets ne sont pas ouverts pour tout le monde. On les voit en suivant la cour dans les jours solennels ou à l'arrivée de quelque illustre étranger. Ils sont fermés le reste du temps. Il y a des personnes à qui, par grâce, on en confie la clé. J'étais assez heureux pour en avoir une et je pouvais les parcourir à mon aise et en faire jouir mes amis. Tous ces bosquets étaient ouverts le jour des noces dont je viens de parler. On dansait dans celui de la salle de bal, dans celui de la colonnade et dans la salle des marronniers. On avait disposé dans d'autres des divertissements pour amuser le public et on y avait fait venir les petits spectacles de Paris. Goldoni suit les affaires de la cour de près. Il se rend souvent à Versailles et au moment de la mort de Louis XV, il craint, comme tous les courtisans, que ses augustes écolières ne succombent également, ce qui ne sera, heureusement, pas le cas. Mes dames allèrent passer le temps de leur convalescence à Choisy. J'allais à leur suite respirer l'air salutaire de cet endroit délicieux. Après cet épisode, une alliance princière le rapproche à nouveau de Versailles. De retour à Paris, j'entendis parler d'un mariage projeté entre Madame Clotilde, sœur du roi de France, et le prince de Piémont, héritier présomptif de la couronne de Sardaigne. Cette nouvelle était pour moi intéressante. J'allais à Versailles pour en être mieux informée. Le projet était vrai. Mais on en faisait mystère, et ce ne fut que 7 mois avant le mariage que j'eus l'ordre de me rendre chez la princesse pour lui donner quelques instructions sur la langue italienne. Goldoni reprend ainsi sa charge d'instituteur de la langue italienne auprès de la famille royale en 1775, cette fois comme professeur des sœurs de Louis XVI, et témoigne à sa manière des préparatifs de ses noces princières, valorisant ainsi son propre rôle à la cour. Cette princesse très douce, très complaisante, avait une facilité prodigieuse pour apprendre et une mémoire très heureuse. J'y allais tous les jours et elle faisait des progrès admirables. Mais nos conférences étaient souvent interrompues par des bijoutiers, par des joailliers, par des peintres, par des marchands. J'entrais quelquefois dans sa chambre pour être témoin du choix des étoffes, du prix des bijoux et de la ressemblance des portraits.
Thank you.
Goldenie suit de nouveau la cour dans tous ses déplacements, dispensant ses leçons à la princesse. Son mariage fut célébré par procuration vers la fin du mois d'août de l'année 1775 dans la chapelle de Versailles. Il y eut des fêtes superbes, des réjouissances magnifiques. Mais de nouveau pointe l'inquiétude primordiale. À l'égard de mes services et de mes dépenses, je n'avais rien demandé et je n'avais rien reçu, mais j'étais bien persuadée que je n'aurais rien perdu. Je me tenais tranquille et je ne disais mot. Le fait est que l'on croyait à la cour que ma pension de 3 600 livres m'obligeait au service de toute la famille royale. On ne savait pas que c'était une récompense pour avoir enseigné l'italien à mesdames. Je n'avais qu'à attendre. On devait m'employer pour madame Élisabeth, une autre sœur du roi. J'attendis longtemps et je gardais toujours mon appartement à Versailles. Le jour enfin arriva. J'eus ordre de me rendre chez madame Élisabeth. Ce sera la plus jeune, mais aussi la dernière des élèves de Goldenie. Cette jeune princesse, dit-il, vive, gaie, aimable, était plus dans l'âge de s'amuser que de s'occuper. Elle avait beaucoup de disposition pour apprendre, mais elle n'aimait pas s'apesantir sur les difficultés vétilleuses. Goldenie vieillit. Il a 73 ans et ne se sent plus aussi à son aise à Versailles. Je vieillissais. L'air de Versailles ne m'était pas favorable. Les vents qui y dominent et qui soufflent presque perpétuellement attaquaient mes nerfs. Je fus forcée de quitter la cour, de me retirer à Paris. Avec le soutien de mesdames, il présente un mémoire au roi pour proposer que son neveu, quoique employé au bureau de la guerre, reprenne sa charge. La reine elle-même eut la bonté de s'intéresser à moi, dit-il. Le roi eut celle de m'accorder 6 000 livres de gratification extraordinaire et un traitement de 1 200 livres annuels sur la tête de mon neveu. La comédie de M. Goldenie, Le bourru bienfaisant, en 3 actes et en prose, dédiée à Madame Adélaïde de France, fut représentée à la cour le mardi 5 novembre 1771. La générale avait eu lieu la veille, le lundi 4 novembre, avec les comédiens français ordinaires du roi. Le texte de cette comédie avait été publié chez la veuve Duchesne, la libraire de la rue Saint-Jacques, au-dessous de la fontaine Saint-Benoît, dans sa boutique au joli nom, le Temple du Goût, et tout un chacun pouvait l'acquérir pour le prix de 30 sols. les bontés royales ne permettent pas à Goldoni de payer les dettes qu'il a contractées pour assurer son train de vie à la cour. Il s'en ouvre avec amertume dans une lettre du 5 mai 1780 au chevalier Gradenigo, ambassadeur de Venise à Paris. « Oui, monsieur, j'ai cédé le titre et l'emploi que j'avais auprès de Madame Élisabeth à mon neveu, je l'ai installé et je me suis retiré. Mais comment me suis-je retiré? La tête rompue, sans la moindre récompense, sans aucune considération pour ce que j'ai fait pour cette princesse et pour sa sœur. 6 années de service, 6 années de loyer, de voyage, de dépenses, de gêne, tout cela ne compte pour rien. » Se peut-il que les Italiens croient que 2 princesses, sœurs du roi de France, au lieu d'avoir fait ma fortune, aient fait mon malheur? Et pourtant, la chose est ainsi. Et pour payer ses dettes, Goldoni se voit obligé de vendre son recueil des théâtres français, y compris le commentaire sur Corneille, dont Voltaire lui avait fait cadeau, et une collection de 135 romans français. Gradenigo lui achète l'ensemble. Goldoni ne fait alors quasiment plus allusion au château de Versailles. Les liens se sont distendus et, expression muette de sa déception, il n'accorde quasiment plus aucun commentaire à la famille royale, hormis lors de la naissance du dauphin en 1781, pour laquelle il évoque le bal des gardes du corps du roi dans la grande salle de spectacle à Versailles, ou encore au moment du décès de Madame Sophie, l'une de ses augustes écolières auxquelles il semble être resté sentimentalement attaché, survenue dans l'année 1783. Entre 1784 et 1787, Goldoni écrit ses mémoires en langue française. « Me voilà parvenu à l'année 1787 ». Qui est la 80e de mon âge, à laquelle j'ai borné les cours de mes mémoires. Mes 80 ans sont complets, mon ouvrage l'est aussi. Ces mémoires ne relatent donc pas la révolution qui éclate en 1789, 2 ans plus tard, et abolit les privilèges. La chute de la monarchie précipite les choses, et c'est ainsi qu'en 1792, un décret de l'Assemblée législative, en supprimant la liste civile, supprime par là même la pension que Goldoni avait obtenue au château de Versailles 20 ans plus tôt. Âgé, presque aveugle, malade, vivant dans des conditions misérables, il ne survit que peu de temps à cette suppression et s'éteint le 6 février 1793 à Paris. Ironie du sort, sur une proposition de Marie-Joseph Chénier, émue par la situation de ce brillant auteur, la Convention nationale rétablit le lendemain de sa mort par décret, la pension qui sera finalement versée à sa veuve. Marie-France Guimard-Roche vous retrouvera à Versailles pour une autre émission de Bienvenue chez le Roi, enregistrée et réalisée par Roland Richard, dans les studios du Rocas de Radio Grand Ciel.